Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, nous recevons aujourd'hui le professeur Pierre Maraval, historien de l'Église, à l'occasion de la réédition de son livre « L'Empereur Justinien » chez CNRS Éditions, dans la collection Biblis, qui est une collection de poche. Monsieur Maraval, Justinien est un grand empereur dont la marque restait dans plusieurs domaines de l'histoire de Byzance. Nous allons, si vous voulez bien, commencer d'abord par quelques mots en général sur lui, puis nous allons nous concentrer sur son action envers l'Église.
Oui, Justinien, donc, effectivement, comme vous le dites, est un grand empereur, ne serait-ce que par la durée de son règne, puisqu'il a régné finalement de 527 à 565, et même auparavant, il avait assisté son oncle Justin durant quelques années, donc un très long règne de plus de 50 ans, qui a laissé de grandes réalisations. Il suffit d'évoquer ici Sainte-Sophie de Constantinople, puisque l'actuelle Sainte-Sophie a été construite, ou plutôt reconstruite sous Justinien, puisqu'elle s'était, la coupole s'était effondrée lors d'un tremblement de terre. Mais il n'y a pas que des monuments, il y en aurait d'autres d'ailleurs qu'on pourrait citer, ne serait-ce que par exemple une basilique à Bethléem, celle qu'on voit encore aujourd'hui d'ailleurs. Et puis, il y a l'œuvre législative de Justinien. Il a laissé quantité de lois, donc il existe un code justinien qui rassemble des lois qui le précèdent et des siennes. Et puis, il y a des 12 livres de nouvelles lois, les nouvelles. Il y a d'autres textes juridiques, donc c'est un grand juriste. D'autre part, son règne est marqué par un effort de reconquête, parce qu'il faut bien se rendre compte que Justinien devient empereur de l'Empire qui est réduit à l'époque, c'est quand même considérable, mais qui est réduit à l'Empire d'Orient. Donc les royaumes d'Occident, la partie occidentale plutôt, est aux mains de royaumes barbares souvent. Donc nous avons en Italie les Ostrogoths, en Gaule on a les Francs, les Burgondes, on a les Vandales en Afrique du Nord, les Visigoths en Espagne. Donc tout ceci a été perdu à l'Empire, si je puis dire, arraché à l'Empire romain, et Justinien aura le rêve un peu fou de récupérer tout cela. Il réussira d'ailleurs, enfin ses armées, parce que lui-même ne sortira jamais de Constantinople. Ce n'est pas un empereur guerrier. Mais ses armées, donc, vont reconquérir l'Afrique du Nord, ensuite l'Italie, et même un fragment au sud de l'Espagne. Mais ce n'est peut-être pas son œuvre la plus remarquable, parce que tout ça était voué à l'échec. Ça a été très vite repris, si je puis dire, par les royaumes barbares. Et d'ailleurs, ça allait sans doute dans le sens de l'histoire. Peut-être Justinien aurait mieux fait de s'intéresser uniquement à l'Empire d'Orient, qui était à l'époque quand même le plus riche et le plus viable.
C'est donc un empereur chrétien, bien sûr, qui règne sur l'Empire romain d'Orient, en plein VIe siècle. Quelle est la situation religieuse dans l'Empire ?
Alors, la situation religieuse est la suivante. Il reste, bien entendu, des païens. Mais il faut bien se rendre compte que toute la législation, en tout cas depuis, surtout Théodose, va en défaveur du paganisme. Le culte païen est interdit, théoriquement, depuis 392. Alors, bien entendu, ces interdictions ne sont pas toujours respectées. Et d'ailleurs, on voit très bien qu'elles sont renouvelées par les successeurs de Théodose. Donc, ça prouve à l'évidence qu'elles n'étaient pas toujours respectées. Mais enfin, ça a tout de même un effet. Les temples, souvent, ont été fermés. Ils ont été démolis. Ils ont été laissés à l'abandon. Et donc, ils ont chuté, ils sont abîmés. Donc, il y a incontestablement une disparition un peu du paganisme de l'espace public. Alors, Justinien va vouloir perfectionner cela de deux manières. D'abord, il enverra des missions même dans des régions de son empire qu'il juge peu chrétiennes. Par exemple, en Asie mineure, il envoie des missionnaires. Mais il enverra aussi des missionnaires à l'extérieur de l'empire. Ça, c'est à la fois politique et religieux, parce qu'on va diffuser l'évangile, certes, mais on va se faire des alliés chez toutes ces populations. Enfin, donc, il fait cette action. Et bien alors, pour tous ceux qui sont dans l'Empire lui-même, il va prendre une décision qui, évidemment, nous paraît aujourd'hui tout à fait discutable. Jusqu'à présent, donc, le culte païen était interdit, mais on laissait la liberté de penser. Vous pouviez rester païen dans votre cœur. Justinien, il va émettre un édit ordonnant à tous les païens qui restent dans l'Empire d'aller se faire baptiser. Alors, il est obéi ou pas, Effectivement, on les invite à se faire baptiser sous menace grave. Et il y a eu, on sait, des procès, des gens qui ne voulaient pas se convertir, qui ne voulaient pas adhérer au christianisme. Donc il y a eu une pression qui n'a d'ailleurs pas toujours été approuvée, même par les évêques, parce que après tout, il faut rappeler que l'adhésion au christianisme doit être libre. Mais enfin, donc, ça a été un des efforts de Justinien, vouloir étendre le christianisme par ces méthodes un peu brutales qui sont bien évidemment dans la tradition de quantité d'édits anciens.
Il faut dire aussi que son règne coïncide avec la fin de l'école philosophique d'Athènes.
Oui, mais c'est bien pour ça. C'est justement c'est cette interdiction du paganisme qui a fait que l'école philosophique d'Athènes, qui était encore assez vivante pourtant de son temps, ce qui prouve bien, n'est-ce pas, qu'il restait des païens, a cessé d'exister, au moins officiellement, parce qu'on dit que malgré tout, tous les philosophes ne sont pas partis, mais quelques-uns sont partis. Ils sont d'ailleurs partis très naïvement en Perse, en pensant que là, ils allaient être bien accueillis et qu'ils trouveraient la liberté de conscience. Eh bien, ils ont été très déçus, car en Perse, il y avait une religion d'État, et ils ont obtenu tout de même la permission de pouvoir revenir dans l'Empire.
Donc, il y a les païens, il y a des juifs.
Il y a des juifs. La tolérance vis-à-vis des juifs persiste sans plus. Mais Justinien va vouloir intervenir même dans ce domaine. Justinien va vouloir réglementer un petit peu certaines pratiques des juifs. Par exemple, il ne les autorise pas à célébrer la Pâque lorsque la date est avant celle des chrétiens. Il leur donne des conseils, là aussi, qui peut-être n'ont pas été très suivis, le conseil de lire la Bible dans la traduction des Septante, plutôt que dans celle d'Aquila, qui avait été faite par un juif. Donc, il y a de sa part un souci, j'allais dire quelque part, je ne dirais pas de les convertir, mais de les limiter. Puis il y a tout de même des lois qui existaient déjà, qui interdisent aux maîtres chrétiens d'avoir des esclaves païens, donc un certain nombre de limitations, mais quand même, en gros, les juifs ne sont pas persécutés, disons. Ils sont quelque peu brimés, peut-être. Mais le problème des juifs, hélas, ce n'est pas le plus compliqué à l'époque de Justinien.
Une autre religion, celle de Mani.
Alors, celle de Mani, là où il sera réprimé de manière beaucoup plus ferme. On va ressortir des édits parce que les manichéens apparaissent. Les manichéens sont considérés comme une hérésie chrétienne, parce que les manichéens parler du Christ. Ce n'est pas en fait une hérésie chrétienne, c'est une religion, j'allais dire, à plein temps, ou une véritable religion. Et donc Justinien prendra des mesures sévères contre des manichéens. Il y aura aussi des procès, des condamnations à mort. Donc c'est toujours ces méthodes fortes qui sont adoptées.
Et maintenant, nous allons nous concentrer à l'intérieur même du christianisme, avec différentes tendances aussi, ou hérésies. Il y a les montanistes, il y a encore l'arianisme. Puis il y aura le grand problème du monophysisme. Évidemment.
Oui, alors il restait donc des hérésies anciennes. Il restait des montanistes, par exemple. Les montanistes, hérésie du IIe siècle, vous savez, c'était une hérésie, un prophétisme, etc. Les montanistes, là aussi, il y aura une expédition, seront au sommet de se convertir. Il y aura même une expédition qui va brûler des villages montanistes et leurs habitants. Donc là aussi, c'est la méthode forte. Les Ariens, on ne peut pas dire qu'ils aient été véritablement persécutés. Il en restait assurément quelques-uns dans l'Empire. Il en restait surtout hors de l'Empire, dans les royaumes barbares. Et donc, ils étaient encore tolérés. Mais donc, Justinien ne s'est pas véritablement intéressé aux Ariens, même s'il y a eu quelques mesures au début du règne. Non, ce qui va surtout le motiver, c'est l'obéissance au concile de Chalcédoine. Donc, le dernier concile qui avait eu lieu dans la chrétienté, c'était le concile de Chalcédoine de 451. Ce concile avait défini que dans le Christ, il y avait une personne, une seule personne, ceci contre les Nestoriens qu'on accusait de dire qu'il y avait deux personnes, et deux natures. Deux natures, la nature divine et la nature humaine, deux natures séparés, inconfusibles, mais deux natures vraiment dont il fallait maintenir l'existence à l'intérieur de cette unique personne. Alors, le concile de Chalcédoine n'a pas fait difficulté dans certaines régions. L'Occident, qui d'ailleurs à l'époque était encore dans l'Empire, l'a accepté sans problème. En Orient, il a suscité de grandes résistances dans deux régions, surtout en Syrie et en Égypte. Pourquoi cela ? C'était très souvent par fidélité à un des acteurs de Chalcédoine, qui avait fini par accepter, quoique avec difficulté, malgré tout, la définition du concile, Cyril d'Alexandrie. Cyril d'Alexandrie et bien d'autres parmi ses successeurs, entre autres des théoriciens plutôt du mouvement, Sévère d'Antioche par exemple. Donc tous ces gens-là, on les appelle donc les monophysites. Les monophysites, on voit dans le terme qu'ils affirmaient qu'il n'y avait plus qu'une seule nature dans le Christ, la nature divine. Ils acceptaient bien de parler d'une nature humaine, mais disons, ils la voyaient avant l'union. Il disait, avant l'union, il y a deux natures, très bien, mais une fois qu'elles sont unies dans le Christ, eh bien, il n'y en a plus qu'une, la nature humaine est dissoute, si on peut dire, dans la nature divine, et cette comparaison classique comme une goutte de miel qui tombe dans la mer. Donc, les monophysites étaient tout à fait contre Chalcédoine parce qu'ils considéraient que ça divisait le Christ. Donc, les deux natures. Donc, ce n'est pas étonnant que Cyril ait été très suivi par des moines qui avaient une dévotion au Christ et qui trouvaient qu'on divisait leur Christ. Donc, il y aura de fortes résistances dans ces régions qu'on va essayer de réprimer de différentes manières. Justinien fera nommer des patriarches dans ces régions, à Antioche, à Alexandrie, des patriarches chalcédoniens, donc qui admettaient le concile de Chalcédoine. Il fera chasser, lorsqu'il y en a, les partisans, les patriarches monophysites. Mais son règne sera très long. Et il aura quand même le souci de les intégrer. Ça sera un souci permanent. Il faut dire avec franchise d'ailleurs qu'il n'arrivera pas. Il essaiera de le faire de différentes manières. Il essaiera de le faire par la discussion. C'est tout à son honneur. Il a voulu qu'on rassemble des théologiens chalcédoniens, monophysites, à Constantinople. Il l'a fait venir, entre autres Sévère d'Antioche, qui était un des grands théologiens monophysites. Et la discussion a un peu tourné court. Mais elle a appris quelque chose à Justinien, que effectivement peut-être Chalcédoine séparait trop les deux natures. Alors, il a voulu faire adopter une formule qui avait été proposée d'ailleurs par des proches, des monophysites, et qui disait « un de la Trinité a souffert ».« Un de la Trinité a souffert ». Donc ça liait davantage un de la Trinité, c'est évidemment ça insiste sur la nature divine, ça rapporte quand même à la nature humaine, à la souffrance de la nature humaine, mais donc c'est quand même une formule qui plaisait aux monophysites, qui était d'ailleurs utilisée dans leur liturgie. Alors, Justinien a voulu la faire adopter, mais les monophysites n'ont pas été du tout satisfaits, parce qu'ils ont eu l'impression, au fond, qu'on faisait un pas vers eux, mais qu'eux-mêmes n'en avaient fait aucun. Alors il a essayé de différentes manières de les réprimer, ça a été toujours pareil. On a réprimé le clergé, on enlevait le clergé, on empêchait le clergé monophysite d'exercer le ministère. Donc on confisquait les églises, les patriarches, les évêques étaient chassés, étaient exilés. Cette méthode n'a quand même pas eu non plus de bons effets. Et d'ailleurs, elle a eu un effet secondaire, j'allais dire négatif, c'est-à-dire que la hiérarchie monophysite, disons, appelons-la comme ça, s'est reconstituée grâce à des missionnaires, des vagabonds, entre autres Jacques Baradé, déguisé en mendiant, a parcouru toute la Syrie et il ordonnait ici et là un clergé monophysite. Donc ça a été un deuxième temps, ce temps de la répression. Puis il a encore voulu, donc, essayer de résoudre le problème par un concile. Ça, c'est évidemment la grande méthode dans l'Église ancienne. Il faut bien voir que les empereurs, à l'époque, depuis Constantin, c'est tout à fait net, ont le souci de l'unité dans l'Église. Pour eux, c'est un facteur, si je puis dire, de l'unité de l'Empire. Puis ils ne veulent pas... il faut ajouter que les disputes dogmatiques avaient souvent des effets extrêmement négatifs. On se battait, ça faisait un véritable désordre public. Donc, ce souci d'unité dans l'Église. Et pour assurer l'unité dans l'Église, il ne faut pas croire que les empereurs prenaient des décisions arbitraires. Les empereurs demandaient aux évêques de discuter, de lui produire une formule et ensuite eux-mêmes l'imposer. Ça a été le cas au Concile de Nicée. Constantin a fait faire une formule, il l'a imposée. Son successeur, Constance II, a vu que cette formule ne plaisait pas à beaucoup d'évêques orientaux. Il leur a dit « faites-en d'autres ». Ils en ont fait d'autres et il a essayé de les imposer. Donc ce phénomène a commencé avec Constantin et il est lié au fond à la conception que se font des empereurs chrétiens de leur devoir. Leur devoir, c'est de défendre l'Église, c'est de défendre la vraie foi. Ce sont les empereurs orthodoxes, naturellement. Donc ça fait partie de leur mission.
Un empereur donc qui s'engage vraiment dans la vie et dans le dogme de l'Église. Et une des hymnes dogmatiques qui sont chantés dans la liturgie de Saint Jean Chrysostome, qui est la liturgie la plus pratiquée dans le monde orthodoxe, est attribuée directement à Justinien. Nous allons l'entendre maintenant. Voici le texte. « Fils unique et Verbe de Dieu, toi qui es immortel et qui daigna pour notre salut t'incarner de la Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, et qui sans changement te fit homme et fut crucifié, ô Christ Dieu, par la mort ayant vaincu la mort, étant l'un de la Sainte Trinité, glorifié avec le Père et le Saint-Esprit, sauve-nous. » On entend cet hymne par le chœur byzantin de Grèce dirigé par Lycurgos Angelopoulos. Donc tiré de la liturgie de Saint Jean Chrysostome, attribué à Justinien. Y a-t-il d'autres témoignages de sa participation au travail dogmatique ?
Tout à fait, parce que lui-même a écrit des édits dogmatiques qu'il a essayé de faire adopter. Et en tout cas, c'était des édits, peut-être son avant-dernier, parce qu'on ne peut pas parler de toutes ces tentatives de récupérer les monophysites. Il a donc convoqué un concile œcuménique, une fois de plus, en faisant venir quelques évêques, même d'Occident. Il a même fait venir, il a enlevé le pape Vigile de Constantinople pour qu'il soit à Constantinople. Alors le plus curieux, c'est que le concile s'est tenu à Constantinople en 553, mais que le pape a refusé d'y venir, parce que précisément, il y avait eu déjà un texte qu'il ne voulait pas adopter. Alors ce concile, je le dis rapidement, a condamné trois évêques qui avaient participé au concile de Chalcédoine et qui n'avait pas été condamné par Chalcédoine, mais qu'on accusait de sympathie nestorienne, alors donc de diviser le Christ. Trois évêques, donc Théodore de Mopsueste, Théodore de Cyr et un évêque d'Édesse. Donc le concile, l'essentiel de ce concile, c'est la condamnation de ces personnages. Ça a d'ailleurs créé, il faut le dire, un schisme en Occident, parce que l'Occident a blâmé le pape de l'avoir accepté, et on a eu pendant jusqu'au début du 7e siècle, en Italie du Nord, entre autres, un schisme autour de ces trois personnages, on appelle les trois chapitres. Voilà, donc ça, l'effort de Justinien pour réintégrer les monophysites a été un peu vain. Mais ça ne l'a pas empêché de prendre d'autres mesures pour l'Église. Donc il s'est intéressé, j'ai dit que c'était un juriste, il a laissé de quantité de lois. Quantité de ces lois concernent naturellement l'Église. Il s'est intéressé à beaucoup de choses. Aux moines, par exemple, aux moines, il préfère de loin les moines qui vivent en commun, les cénobites, aux solitaires, qui ne sont pas très pas très difficiles à gérer, évidemment, qui sont souvent indépendants. Donc, il préfère les cénobites. Il accepte les stylites, tout de même. Hein, c'est une variété assez curieuse. Mais il parle aussi des évêques. Les évêques, il y a des lois, par exemple, il ne veut pas que l'évêque soit marié. Non pas pour des raisons... mystique, mais peut-être pour des raisons économiques, parce qu'il ne veut pas que les biens de l'Église puissent être aliénés aux enfants des évêques. Donc, Justinien s'est intéressé à l'Église de très près, parfois peut-être de trop près.
Pour résumer en terminant, quel est son héritage sur la vie de Byzance et peut-être la vie de l'Église d'Orient?
Disons que il a tout de même laissé une église chalcédonienne forte, et puis là, il a quand même aidé à la christianisation. Ce qui est évidemment un peu fâcheux, ça, c'est cette constitution des églises non chalcédoniennes sous son règne, hein, et qui ont fixé leur hiérarchie à partir de ce moment-là. Mais bon, l'héritage de Justinien, c'est aussi Sainte-Sophie, c'est aussi l'héritage juridique, parce que l'héritage juridique a eu, en Occident en tout cas, une grande importance. Les lois de Justinien ont été très réétudiées à la Renaissance, elles ont contribué au renouveau du droit en Occident. Mais bon, je crois que le bilan de Justinien est quand même globalement positif. Il faut tout de même souligner qu'il a eu aussi, durant son règne, de grosses difficultés à certaines époques. Il y a eu de grands malheurs à son époque. Il y a eu des grands tremblements de terre, il y a eu la peste, il y a eu des guerres. Tout ceci, d'ailleurs, l'a un peu découragé vers la fin de son règne. Justinien était dans le ciel. Il ne s'intéressait plus tellement aux choses de la terre, dit-on.
Donc les monuments aussi, vous avez dit Sainte-Sophie tout à l'heure, la cathédrale de Bethléem, le monastère de Sinaï aussi.
Oui, bien sûr. Oui, c'est lui en effet qui a financé le monastère de Sainte-Catherine, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il a fait beaucoup de choses, on ne peut pas tout dire.
Et puis aussi, il faut dire qu'à partir d'un moment, le problème de la différence avec le monde dit monophysite est un peu résolu par l'histoire, puisque à partir du siècle suivant,
oui, bien sûr,
ils seront sous contrôle arabe.
Bien sûr.
Et donc, dans l'Empire, la situation se présente différemment.
Oui, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il aurait dû davantage se battre contre la Perse, parce que la Perse était l'ennemi traditionnel, mais la Perse s'est fait éliminer par les Arabes ensuite.
Donc, tout ceci à découvrir dans le livre qui vient d'être édité chez CNRS Éditions, Collection Biblis, de Pierre Maraval, l'empereur Justinien. Merci beaucoup. Notre prochaine émission, dimanche 4 novembre. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Sylvie Migaud. Prise de son, Alexandre Dang. Notre adresse, Orthodoxie, Radio France, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75-220 Paris SEDEC 16. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Je vous laisse maintenant en compagnie de Michel Schaeffer pour le service protestant.